Donc bonjour à tous, comme Madame Stalen l'a dit, après avoir voyagé un peu dans différentes régions d'Italie, aujourd'hui on va se concentrer sur ce que j'ai appelé finalement la Via Emilia. Je suis allée un tout petit peu plus loin que les trois villes concernées, parce qu'à partir du moment où on parle gastronomie dans ce quartier-là, il y a encore d'autres villes, comme Piacenza, qu'il ne faut pas oublier. Donc du coup, la Via Emilia était plus adaptée. En fait, à ce dont je vais vous parler ce soir. Une région qui est connue, on va dire que pour une fois, c'est peut-être une région qui est connue avant tout pour sa gastronomie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des richesses culturelles, mais en général, quand on dit Parme, on pense plus facilement au jambon qu'à une quelconque... soit à l'art, soit à des choses comme ça, même si il y a eu un certain nombre d'artistes qui sont passés. Mais en général, pour une fois, la gastronomie passe peut-être avant le reste en Italie, ce qui n'est pas forcément le cas le plus fréquent. Donc du coup, de quoi on va parler, un petit peu comme tous les ans, on va faire un peu le même cheminement. On va regarder un petit peu la géographie, on va parler des grands classiques de cette région, parce qu'il y a vraiment des spécialités très renommées. Il y a quelques spécificités, quelques produits dont on parle moins, mais qui méritent quand même notre attention. Ensuite, si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Et puis, je vous ai amené quelques petits trucs à grignoter, parce que quand même, on ne peut pas seulement en parler, c'est quand même un peu dommage. Donc, si on regarde un peu l'Émilie-Romagne, on va se dire que c'est la région, c'est plutôt au nord quand même, c'est une région qui traverse un peu l'Italie. Plutôt bien entouré, on va dire, en termes de gastronomie. Au sud, il y a la Toscane, il y a les Marches. Après, plutôt à l'ouest, on a la Ligurie, le Piémont. Et au nord, la Lombardie, la Vénétie. Et puis à l'est, une façade maritime qui n'est pas très intéressante, on va dire, d'un point de vue purement gastronomique. Parce que la façade maritime de ce côté-là n'est pas très large. Il n'y a pas grand-chose. Ça ne veut pas dire qu'ils ne mangent pas de poisson, mais ce n'est pas forcément le truc le plus intéressant. Si on regarde un peu plus en détail cette région-là, on va vite repérer des noms qui évoquent quand même un certain nombre de choses en termes gastronomiques. On va voir Parme, évidemment, on va voir Piacenza, on va voir Modène, on va voir Bologne, où là, évidemment, ça évoque quand même assez vite un certain nombre de spécialités culinaires. Donc c'est quand même une région qui est assez ancienne, et c'est une région qui a une histoire ancienne, ce qui explique aussi d'avoir des produits qui existent, qui se sont développés au fil du temps, mais aussi on va voir qu'il y a beaucoup de produits de cette région-là qui sont des produits qui s'exportent, et qui s'exportent énormément. Donc la Via Emilia, si on retourne un tout petit peu en arrière, en gros c'était une voie romaine qui partait de Piacenza et qui allait jusqu'à la mer, plus ou moins en passant par Parme, Modène, Ferrare et Calais à la mer. Donc cette voie-là a été conservée plus ou moins, mais d'où le nom de cette région, ou au moins une partie du nom de cette région, l'Émilie, qui date quand même du 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est pas tout jeune, tout jeune. Rimini, oui, pourquoi j'ai dit Ferrare en plus Pardon. La Romagne, c'est le nom du delta du Pô. C'est une région du delta, une partie du delta du Pô. En général, cette partie-là, vraiment du bout, il est où le Pô? Je l'ai perdu. Ah, il est là. En fait, cette partie-là s'appelle la Romagne.
Ah non?
Non?
Romagne est au sud.
C'est au sud?
La Romagne est au sud.
Ah,
c'est la Romagne.
Alors, alors toutes mes excuses, mes informations sont pas bonnes. Ça m'a paru bizarre parce que je dis le delta du Pô, il n'est pas aussi. Enfin, je le voyais plus au sud.
Oui, c'est le bas, même dans les Marches, il y a une partie de Romagne.
D'accord, parce que du coup, j'ai lu le delta du Pô, mais je dis le delta du Pô, ça me paraissait un peu nord. Bon, mes informations n'étaient pas bonnes, mon intuition était meilleure. Donc si on prend cette voie-là, on a une succession de villes qui sont aussi des villes d'art, parce que bon, Parme c'est quand même aussi une ville d'art, Bologne c'est une ville d'art et c'est aussi une ville de culture, et d'instruction, puisque Bologne est quand même une des plus vieilles universités d'Europe, que Bologne a été l'une des premières villes à proposer des cours d'anatomie, par exemple, à une époque où c'était franchement pas à la mode, c'était franchement mal vu. Donc, à ce titre, ce sont des villes qui ont quand même une histoire, un passé, et une histoire culturelle très riche. C'est généralement une région qui est quand même assez prospère. C'est une région qui est plutôt riche, il y a une géographie qui est favorable, il y a un fleuve, mais plus un certain nombre de rivières qui vont vers la mer. Or, historiquement, tout fleuve ou toute rivière importante allant vers la mer avait un avantage, c'est que ça permettait l'export, ça permettait le commerce, ça permettait les échanges. Donc, en général, les villes ou les régions qui sont arrosées par des fleuves pas trop loin de la mer, historiquement, étaient plutôt des villes plus riches que celles qui étaient arrosées par rien. En plus, bon, il y a quand même aussi le fait que le delta du Pô est important, que du coup, toutes les alluvions, ce genre de choses, ça crée une certaine richesse de la terre qui permet soit l'agriculture. En l'occurrence, en Émilie-Romagne, oui, il y a de l'agriculture, mais ce n'est pas forcément la partie la plus importante. Mais par contre, ça permet l'élevage. Et qui dit élevage, dit ce qu'on fait à partir des animaux, et en l'occurrence, la charcuterie et le fromage. Il y a des montagnes. Alors oui, il y a des pics, mais la moyenne de la montagne n'est pas très haute, donc ça permet là encore d'avoir un certain nombre de richesses climatiques, de variétés climatiques, et on verra notamment pour le jambon de Parme, pour le culatello, pour ce genre de choses, que le fait d'être à une altitude mais pas trop haute, ça permet une maturation qui soit optimale. C'est une région prospère, oui, parce que du coup, bon, pour toutes ces raisons, ces villes-là se sont développées. Se sont développées et ont échangé avec d'autres, donc sont devenues des villes riches, des villes qui ont fait référence. Et il y a un certain nombre d'entreprises emblématiques, pas forcément les plus grosses, mais bon, dans l'automobile, les Lamborghini et compagnie, c'est dans la région. Si on prend les pâtes Barilla, c'est à Parme. Il y a quand même un certain nombre d'entreprises importantes dans cette région-là, qu'on ne considère pas forcément d'emblée comme une région industrielle, mais il y a quand même un certain nombre d'entreprises et d'entreprises qui sont historiquement basées ici. C'est une région de gastronomie. Quand on regarde Bologne, Bologne est appelée Bologna la Grassa. Donc ça veut dire quand même quelque chose. On y mange bien, quoi. En gros. Il y a un nombre de spécialités qui est très varié. Il y a énormément de charcuteries. On va passer un certain temps sur la variété des charcuteries, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a des fromages, mais il y a aussi des vins. Et puis, on va parler un peu du célèbre vinaigre balsamique, parce que c'est quand même un des fleurons de la gastronomie italienne, et on va dire maintenant mondiale. C'est donc une région phare pour la charcuterie. Il y a énormément d'AOC, d'AOP, maintenant ça s'appelle, les appellations d'origine protégées, puisque la version européenne de l'AOC contrôlé, c'est devenu protégé. En passant européen, c'est passé de contrôler à protéger. Voilà. En italien, DOP. Et d'IGP, donc d'indication géographique protégée. Pour le coup, les AOC ont des cahiers des charges beaucoup plus restrictifs. Les IGP, en général, se contentent de parler d'un terroir ou d'une région de production, mais n'ont pas forcément de cahier des charges précis en matière de matières premières, traitement, façon de travailler, ce genre de choses. Globalement, c'est la différence entre les AOC et les IGP. Le jambon de Parme, évidemment, ça c'est une AOC. La Coppa Piacentina, c'est aussi une AOC ou AOP. Culatello di Zibello également. La mortadelle de Bologne, elle, est en IGP, par exemple. C'est pas une AOC, la mortadelle.
Et la culatello?
Le culatello, on en parlera tout à l'heure. Alors, on va commencer quand même, à tout seigneur, tout honneur, le jambon de Parme. Ça date un peu, le jambon de Parme. Les premières traces dans la région de Parme, c'est chez les Romains. Donc ça remonte un peu quand même. Ils parlaient, alors pas du jambon de Parme, mais de quelque chose d'assez novateur, qui était le fait d'isoler la cuisse du porc et de la faire sécher avec du sel et d'en créer un mets qui était particulièrement délicat. Bon, on n'est pas pile poil au jambon de Parme d'aujourd'hui, mais quand même, Dès l'ère romaine, on parle de quelque chose qui va être par la suite le jambon. Ça s'est développé petit à petit. En 63, est apparue, alors je ne sais pas si vous le voyez bien, la fameuse couronne à 5 épines, hein, 5 branches, 5, je ne sais même pas comment ça s'appelle, les pointes, qui est caractéristique du jambon de Parme. La OC, la couronne ducale, voilà, sur les jambons de Parme, le jambon de Parme doit avoir sur le jambon, tamponné au fer rouge, donc imprimé, cette couronne ducale. Sinon, il n'a pas le droit de s'appeler jambon de Parme. Si on vous vend du jambon de Parme qui n'a pas cette couronne-là, c'en est pas. Bon, il y a un certain nombre de gens qui vendent du jambon de Parme de Bayonne, mais le jambon de Parme doit avoir cette couronne ducale à 5 branches. C'est une AOC depuis 1996 qui, dans le cadre des AOC, la plupart des AOC ont été demandées, réclamées dans les années 90, donc on va dire que c'est arrivé à peu près dans la moyenne des AOC, il y en avait quelques-unes avant, mais le gros de la troupe. L'Italie a été très... on va dire très volontaire en matière de demande d'AOC à l'Europe ou d'AOP, justement pour protéger un certain nombre de produits. Et aujourd'hui, je crois qu'en Europe, c'est le pays où il y en a le plus en termes alimentaires. Il y a le plus d'AOC, il y a énormément de produits, justement, où ils ont dit, nous, on veut un cahier des charges précis, on veut des choses, on ne veut pas qu'on nous copie. Ce qui est plutôt une bonne chose, parce qu'on verra après que le vinaigre de balsamique, pour le coup, ils ne l'ont pas fait ou ils l'ont fait très tard. Et à l'arrivée, il y a des trucs qui n'ont rien à voir, qui s'appellent avec le même nom, ce qui est quand même une, à mon avis, vaste fumisterie. Bon, ouais. On y reviendra tout à l'heure. Donc, l'AOC, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a comme caractéristique de donner un cahier des charges précis en termes de matières premières, en termes de savoir-faire, façon de faire, de travailler, de façonner, et façon de... la maturation, le nombre d'années, ce genre de choses. Donc, il y a un certain nombre de races qui sont autorisées pour pouvoir prétendre à être du jambon de Parme. Il y en a, je ne sais plus, 4 ou 5, je crois. Les plus connues, c'est une race qui est venue d'Angleterre qui s'appelle le Large White, qui est un gros cochon blanc, comme, pas blanc, clair, comme son nom l'indique. Après, il y a quelques races autochtones italiennes, mais la principale caractéristique des porcs pour le jambon de Parme, c'est que ce sont des gros, des cochons de grosse taille.
C'est le cochon du Brasilien, ou bien du Nord.
Oui, c'est je ne sais plus lequel, mais il y en a un, oui, c'était le sien. Je sais plus. Oui, le Large White, oui, il a été importé par, je ne sais plus comment il s'appelait.
C'est pas le prince William.
Non, non, c'est pas William, père. Mais il a été importé.
C'est Philippe.
Enfin,
c'est le prince.
Non, non, c'était haut, c'est plus vieux que ça.
C'est bien plus vieux que ça.
C'est beaucoup plus vieux que ça. Il a été importé au 18e siècle ou début du 19e par. J'ai perdu son nom, je l'ai lu l'autre jour. Donc il faut qu'au minimum, le porc qui peut prétendre à faire du jambon de Parme, il ait au minimum 9 mois et il fasse au minimum 150 kilos. Donc c'est déjà des beaux bébés. Hein. La seule AOC au monde qui, est des porcs, qui nécessite des porcs plus vieux et plus gros, c'est le San Daniele. Où là, pour le coup, il faut qu'ils aient minimum 11 mois et je crois que c'est 170 ou 180 kilos.
Mais c'est le prince Charles qui élève les porcs de cette race.
Oui, lui, il élève, mais il a été mais en fait, c'est arrivé par un de ses prédécesseurs, un de ses ancêtres, qui a importé ces porcs-là en Italie. Donc, il faut qu'ils soient élevés. La région d'élevage est un petit peu plus large, on va dire, que la région où le jambon est travaillé. Il faut qu'ils soient élevés dans le nord et le centre de l'Italie. Donc, une région un peu large qui englobe, on va dire, grosso modo, le Piémont, la Lombardie, l'Émilie-Romagne, le haut de la Toscane. On va dire un petit pavé un peu nord-centre. Là, ils ont le droit d'être élevés dans toute cette région-là. Par contre... il faut qu'ils aient une alimentation qui est très réglementée, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas, il faut qu'ils soient élevés avec une certaine proportion de petits laits de parmesan, il faut qu'ils soient élevés avec une proportion de céréales, une proportion très minime de céréales fermentées type ensilage, choses comme ça, ils ont droit mais à hauteur de quelques pourcents, Donc pour le coup, c'est très normé, ils n'ont pas le droit de manger ce qu'ils veulent, ou qu'on leur fasse manger ce qu'on veut plutôt. Les matières premières pour le jambon de Parme, c'est assez facile. C'est une cuisse de cochon, c'est du sel, c'est ce que les Italiens appellent la sougne, qui ressemble un peu à du saindoux, qui est de la graisse de porc, du sel et un petit peu de farine de riz. Donc voilà. Et surtout, le secret de fabrication du jambon de Parme, c'est l'air de la région. Parce qu'en fait, une fois les porcs peuvent être élevés, enfin où ils veulent, dans une zone, on va dire, relativement large. Par contre, une fois qu'ils sont abattus, il faut qu'ils soient travaillés dans une zone très très précise, très délimitée, qui en fait, on dit jambon de Parme, mais la capitale du jambon de Parme, c'est dans le sud de Parme, une ville qui s'appelle Langhiran. C'est là où il y a le plus de production, et puis bon, dans les alentours. Et en fait, le cahier des charges stipule qu'il faut qu'il y ait moins, que la zone dans laquelle ils sont travaillés soit à moins de 900 mètres d'altitude. Parce qu'au-delà, l'air est plus sec, et en fait, la vitesse de séchage est trop importante. Donc l'optimum, c'est autour de 800-900 mètres d'altitude. Et autour de Langhiran, on est pile poil où il faut, bon sens du vent, bon truc, bon, tout est bien. À l'arrivée, ça a quand même été un peu une surprise pour moi quand j'ai un peu fait quelques recherches. On produit en gros 10 millions de jambons de Parme par an. Donc c'est quand même pas mal, mais surtout, il n'y en a que 20% qui s'exportent. Donc ça veut quand même dire qu'il y a 8 millions de jambons de Parme qui sont mangés par les Italiens en Italie. Donc l'Italien mange quand même un peu de jambon de Parme, quoi, parce que au coût de 8 ou 10 kilos de jambon de Parme, ça fait quand même un peu de jambon par personne. Hein. Bon, après, je présume qu'il y en a qui doivent... il y a beaucoup de touristes en Italie, il y a ce genre de choses, mais quand même. Hein. Et le premier pays importateur de jambon de Parme, c'est la France.
C'est la France.
Comme souvent pour les produits de gastronomie italienne, c'est quand même assez souvent le cas. Alors, comme ça vous saurez faire un jambon de Parme, si ça vous prend de faire un d'aller habiter sur place et de faire un jambon de Parme, je vous donne la technique. Il y a 6 étapes, et alors celles-là, elles existent depuis la nuit des temps. Dans un premier temps, ils isolent la cuisse du porc. Les porcs, quand ils sont abattus, sont coupés en deux. Alors les porcs, oui. Il faut qu'ils soient à jeun depuis plus de 15 heures, qu'ils soient reposés, c'est-à-dire quand ils arrivent en camion, il faut qu'ils se reposent un certain nombre d'heures pour pas qu'ils soient stressés, pour pas ceci, pas cela. Donc il y a un certain nombre aussi, le cahier des charges est suffisamment précis pour stipuler dans quelles conditions le porc doit être abattu. La viande et le porc est coupé en deux, la cuisse est isolée. Ensuite, pendant 24 heures, c'est refroidi à 0 degré, mais surtout pas congelé. Si c'est congelé, ça part en rebut. La raison pour laquelle c'est refroidi, c'est pour des raisons d'hygiène, pour enlever une grosse partie des bactéries. À partir du moment où ils le congèlent, le problème c'est que quand ça décongèle, ça rechauffe les bactéries plus vite. Donc du coup, il faut que ça soit suffisamment froid pour les virer, mais pas trop pour pas les recréer quand ça rechauffe. Ensuite, les cuisses sont rognées pour leur donner leur forme. Et il y a deux formes globalement de jambon de Parme. Il y a la forme classique, en ce qu'ils appellent en mandoline. Et il y a une autre forme qu'on trouve assez peu en France, ce qu'ils appellent adobo, qui est une forme très ronde. Je ne sais pas si vous avez vu, il y en a en France très peu. En Italie, on voit ça de temps en temps, ça fait un jambon qui est très rond. Ça, l'avantage qu'on donne à ça, c'est du coup d'avoir des tranches qui soient plus rondes et du coup moins sèches parce que plus englobées, enrobées. Après, moi, je pense que du jambon de Parme qui est bien affiné, il n'est pas sec. Donc, ça règle le problème par lui-même. Donc, ensuite, une fois que vous avez votre cuisse, que vous avez taillé votre cuisse, bien, vous la salez. Alors, il y a deux étapes de salage. Sur la partie chair, elle est salée au sel sec. Par contre, sur la partie coile, c'est du sel humide, c'est-à-dire de la saumure, de l'eau et du sel. On tamponne en indiquant le mois et l'année. Si vous avez un jambon de Parme entier, arrive un moment sur la cuisse où vous allez voir une date. La date, c'est la date de début de salage. Et quand on vous dit c'est du jambon de Parme affiné 18 mois, c'est 18 mois entre cette date-là et la date à laquelle il va être emballé. Parce qu'après, une fois qu'il est mis sous vide et emballé, surtout quand il est désossé, il vieillit plus. Enfin, il s'affine plus. Donc même ça, si la date, même si vous le consommez 4 mois après la date d'emballage, il n'aura pas bougé. Donc l'affinage se calcule entre ces deux dates. Après, vous les mettez pendant 6-7 jours dans en fonction du poids de la viande, dans une chambre qui s'appelle une chambre de premier sel. Ensuite, ils refrottent avec recel sec, recel humide selon les endroits, et les mettent pour une quinzaine de jours, 15-18 jours selon la taille encore, dans une chambre de deuxième sel. Le but du jeu, à l'issue de ça, c'est que la cuisse de porc est perdue à peu près 8-10%. Enfin, le but du jeu. La conséquence, c'est qu'elle est perdue 8-10% à peu près de son poids. Ensuite, elle repose pendant 3 mois, où elle repère à peu près 8-10%. Ensuite, on les met dans des grands. Là, si vous avez vu des reportages ou des choses comme ça sur le jambon de Parme, en général, c'est toujours les photos qu'on montre. C'est des grands, une espèce de grands hangars avec des fenêtres très hautes qu'ils ouvrent et ferment. Alors, il y a un savant calcul pour dire l'air extérieur, l'air intérieur, l'humidité, la température. Enfin, bon, faut être un peu expérimenté pour trouver la juste équation, mais du coup ils ouvrent les volets, ils ferment les volets, ils ouvrent les battants, ils ferment les battants pour que justement il y ait une bonne quantité d'air et d'humidité, mais pas trop, parce que trop ça sèche trop vite, et pas assez ça sèche pas, donc ça moisit. Donc faut viser. Donc si vous faites votre jambon de Parme, ouvrez les volets, ouvrez vos fenêtres. Donc en général ils les laissent à peu près pendant 4 mois. Et vers le 7e mois, la cavité qui est autour de la noix, il y a en général un petit trou, pour pas qu'il sèche trop, ils l'enduisent justement de cette fameuse sougne qui ressemble un peu à du saindoux. Donc c'est là le graisse de porc, sel, un peu de poivre et un peu de farine de riz éventuellement pour amalgamer le tout. Mais la farine de riz, on s'en sert finalement pas mal. Les saucissons sont... Les saucissons, autour des saucissons on met de la farine de riz, autour des raviolis pour pas qu'ils collent on met de la farine de riz, ce qui est pas complètement stupide dans la mesure où en Italie notamment du Nord il y a toujours eu du riz, donc c'est une des céréales disponibles localement et qui en fait a comme avantage de pas donner de goût. Et on m'avait expliqué, alors j'ai pas le détail de la réaction, mais apparemment le gluten du blé ou de ces céréales, des céréales avec gluten et de la viande, ça crée une réaction qui est pas très positive. Je suis pas chimiste, mais c'est ce qu'on m'avait dit. Donc là, ça fait déjà 7 mois quand même que notre cuisse elle est en route, donc on n'est pas tout de suite. Et ensuite, on les laisse encore s'affiner pendant au moins 5 mois. Arrive le 12e mois, et là on peut commencer à savoir si notre jambon il va s'appeler Parme ou pas. Là, jusque-là, il s'appelle pas Parme, hein, il est candidat. Il n'y a pas de primaire, mais il est candidat. Donc arrive le moment où votre candidat de jambon de Parme, le 12e mois, est sondé par des nez, puisque c'est vraiment ça s'est fait par l'homme, qui prend un poinçon en os de cheval, qui sonde jusqu'au cœur du jambon, qui renifle et qui dit à l'odeur s'il correspond aux critères ou pas. Donc si vous voulez faire votre jambon de Parme, c'est là que ça devient difficile, c'est là que ça se gosse, hein. Et là, en fonction du résultat du test, le jambon, votre candidat au jambon de Parme, a ou n'a pas son AOC, et là il a ou il n'a pas sa couronne à 5 branches. S'il a la couronne à 5 branches, il n'a toujours pas complètement fini son truc. En fonction du poids qu'il fait, s'il fait entre 7 et 9 kg, il est sorti du système. Et vous avez des jambons qui sont assez peu affinés. Je vous dirais franchement que ce n'est pas les meilleurs. S'il fait plus de 9 kg, là pour le coup, ils sont affinés plus longtemps. Et du coup, ils passent, selon les cas, après, selon les poids, la taille, la façon dont ils sont faits, leur forme, le ci, le ça, ils sont préconisés pour être affinés 15, 16, 18, 24 ans. En général, quand vous voulez du bon Parme, prenez du Parme affiné au strict minimum 16 mois, 18. Après 24, c'est bien. Mais en général, l'écart de prix entre le 18 et le 24 mois ne justifie pas forcément l'écart de qualité. Enfin, c'est mon point de vue. Mais prenez du parme au moins 18 mois. Sinon, vous allez avoir du jambon qui est... Vous ratez un peu toute la richesse du jambon de Parme. Et sans Daniel, c'est encore pire. Comme sans Daniel, prenez jamais en dessous de 18. Quoi. Parce que comme ils sont encore plus gros, ceux qui sont sortis du système à 12 mois, ils ne sont pas très intéressants. C'est qu'en fait, ils sont un peu petits, donc un peu secs.
Ils sont vendus.
Ah oui, ils sont vraiment vendus, mais bon, enfin... C'est ce qui fait l'écart en général entre un jambon de Parme qui est vendu à 25 € le kilo et un jambon de Parme qui est vendu à 45 ou 50. Enfin, en général, c'est pas précisé, mais bon, il y a souvent une raison à tout. Donc voilà, c'est bon, vous êtes prêts? Vous pouvez tous faire votre jambon de Parme? Tous. Bon, maintenant, on va faire une mortadelle. Alors, la mortadelle... est originaire de Bologne. C'est une charcuterie qui est une charcuterie cuite. Il n'y a pas tant que ça de charcuterie cuite. Grosso modo, il y a le jambon et il y a la mortadelle. La mortadelle est originaire de Bologne. Elle est faite avec du gras et du maigre de porc. Et là, il y a quand même un cahier des charges, même si c'est qu'une IGP. Le pourcentage de morceaux de gras, la taille du morceau de gras moyen... est assez réglementé. Vous pouvez pas appeler mortadelle ce que vous voulez, même si bon, en France les cantines ont tué la mortadelle, parce qu'on a tout le monde a tellement de mauvais souvenirs de la mortadelle de la cantine que du coup plus personne n'aime ça. Un peu partout en Italie, la mortadelle se consomme en chiffonade. Il y a qu'un endroit où on ne consomme pas en chiffonade, c'est à Bologne. À Bologne, on la coupe en cubes. On fait des grosses tranches et on la coupe en cubes. Après, bon, il y a quelques autres villes où on le fait, mais c'est vraiment la tradition bolognaise. À titre personnel, je l'aime mieux en chiffonnette qu'en cube. Mais bon. D'une manière générale, pour la cuisson de la mortadelle, c'est un processus qui est assez compliqué. Il faut cuire, il faut hacher. Enfin, c'est haché très fin. C'est remis dans des boyaux. C'est quand même assez long. Et surtout, c'est mis dans des gros fours. Les mortadelles, elles peuvent faire jusqu'à plusieurs centaines de kilos. La mortadelle moyenne doit faire quelque chose comme, je ne sais pas, une vingtaine de kilos, 15-20 kilos. Mais après, ils font des concours de plus grosses mortadelles et des trucs qui vont jusqu'au bout de la salle. Et surtout, le diamètre. Et en gros, il faut une heure de cuisson par centimètre de diamètre. Donc, il faut quand même que ça cuise un certain temps. Donc, prévoyez le four pour longtemps. La mortadelle, qu'on ne sait pas forcément, et en France, on ne l'utilise pas forcément comme ça, mais en Italie, on l'utilise énormément dans des farces. Parce que c'est une chair qui est très fine, qui a beaucoup de goût, qui est à la fois maigre et grasse, donc du coup qui se prête bien. Et dans beaucoup de farces, de ravioli, de lasagne, de cannelloni, de choses comme ça, on farcit, on met de la mortadelle dans la farce. C'est pas que de la mortadelle, mais on en met. Et si vous essayez, c'est pas mal. Alors, les autres charcuteries. On arrive au culatello. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du culatello?
Oui.
Le plus connu et celui qui a la haussée, c'est celui de Zibello. Alors, c'est la fesse du porc. Donc, c'est un peu plus haut que la cuisse. C'est affiné entre 20 et 24 mois, voire un peu plus. Donc, c'est affiné très longtemps, ce qui donne une chair qui est très, très suave, très, très fondante. Et il est mis en fait dans une vessie de porc. On met la fesse du porc dans la vessie de porc. Et c'est ce qui fait la peau du culatello. Alors là, pour le coup, la haussée, il y a Zibello, le village d'à côté, celui d'à côté, et en gros, c'est tout. Hein. Donc c'est vraiment très très restreint. Du coup, ça en fait un jambon qui coûte très cher, qui est très comparable en matière de prix au jambon ibérique très très affiné. Après, il y a un certain nombre de culatello qui n'ont pas la haussée, qui sont faits suivant le même processus, mais un petit peu plus loin, dans la région de Parme, il y en a pas mal. Je sais que celui qu'on a au magasin, il n'a pas la haussée, parce que les tarifs de la haussée nous ont semblé prohibitifs. Mais c'est un jambon qui est assez rond, qui se tranche évidemment en feuilles de papier à cigarette, qui a vraiment beaucoup de goût, beaucoup de saveur, et une texture qui est très, très fondante. Dans les charcuteries cuites, et même qui se mangent chaudes, j'ai marqué se mange cuite, mais c'est se mange chaude. Il y a une autre spécialité dont on parle peu, qui est la spalacotta, qui est en fait l'épaule cuite. et c'est une charcuterie qui se mange chaude, ce qui n'est pas forcément le cas non plus le plus fréquent des charcuteries en général, et Verdi, qui est originaire de la région, présentait ça comme la 7e merveille du monde et comme son mets préféré et un mets d'exception. Après, je vous avoue que je n'ai jamais goûté. J'en ai jamais vu, j'en ai jamais trouvé. Mais c'est quand même, enfin, dans toutes les littératures, on voit ce truc-là apparaître, mais ça doit être un peu... Je ne sais pas si certains d'entre vous ont goûté à ça.
Non.
Non, bon. Donc je ne sais pas quel goût ça a. Je ne peux pas vous dire. Mais dans toutes les littératures que j'ai pu trouver, il y a tout le monde en sens ça comme vraiment quelque chose d'assez... Bon, enfin, moi, je pense que ça doit ressembler à un petit salé quelconque, mais... Bah, c'est ce qui, enfin, la description, c'est ce à quoi ça me fait penser, parce qu'il est d'ailleurs très bon, mais je ne peux pas vous dire. Donc j'espérais que quelqu'un d'entre vous puisse me dire à quoi ça ressemble. Donc bon, désolé. La prochaine fois que j'irai par là, j'essaierai de...
Et San Secondo, c'est un...
C'est une ville, un petit village qui est dans la région de Parme, mais qui est... je vais vous dire une bêtise. C'est pas très loin de Parme, mais de là à vous dire où c'est, je ne sais plus.
De Verdi, probablement.
Oui, mais de toute façon, c'est dans ce quartier-là, mais c'est autour de Parme, mais j'ai pas réussi, enfin, j'ai pas recherché, je vous avoue.
C'est
un peu court sur les timings pour ça, et j'ai pas recherché où c'était celle-là. Donc après, on a les saucissons, les salames, Felino, qui est une ville, ou un village, on va dire, qui produit un saucisson qui est un saucisson très doux, très peu poivré. Les saucissons de Piacenza, qui eux ont une AOC, donc ça, il y a un certain nombre de saucissons dans le quartier. Bah, évidemment, à partir du moment où vous avez des porcs, que vous les élevez, que vous... enfin bon, si vous utilisez juste la cuisse, ça fait quand même beaucoup de choses. Si votre porc, il fait minimum 150 kg, deux cuisses, vous en avez pour 30 kg, il vous reste quand même 120 kg à utiliser pour autre chose. Donc une fois... Si l'épaule cuite n'est pas très connue, personne n'en fait. Il vous reste quand même beaucoup de choses pour faire de la charcuterie. Donc les saucissons, la côte. Et en fait, il y en a deux. Alors les recettes ne sont pas tout à fait les mêmes, mais c'est quand même assez proche. Celle de Piacenza a une AOC, celle de Parme n'en a pas. Donc ces deux préparations. Alors dans les deux cas, c'est la nuque du porc qui est pressée. Donc, d'où ce côté un peu entrelardé.
Ah, oui.
C'est les muscles de la nuque du porc, la coppa. Celle qui est faite à Piacenza, ce sont des porcs qui sont soit de la région, soit de Lombardie, mais une fois encore, qui sont travaillés dans la province, toujours pour la même raison, le climat, l'aération, l'humidité. Donc c'est là la clé de la fabrication des charcuteries. Dans le même esprit, la pancetta. Donc la pancetta, pour le coup, c'est la panse du porc, et là c'est roulé en général. De temps en temps elle est à plat, mais en Italie en général elle est toujours, presque toujours roulée, soit roulée telle quelle, plus ou moins grasse selon les cas, soit mise steccata, hein, entre deux planches. C'est une autre façon. Celle de Piacenza, et elle est roulée en général. Deux autres spécialités qu'on connaît moins, qui là viennent de la région de Modène, c'est le côté quino et le zampone. Alors le côté quino, c'est, on va dire, un saucisson à cuire, plus ou moins. Le zampone, c'est plus aussi un saucisson à cuire, mais qui là est mis dans un pied de porc. Donc il a une forme avec les deux phalanges. Donc ça, c'est des spécialités qu'on mange plutôt l'hiver, et en particulier à la période de Noël. L'idée étant de manger ça après minuit, le soir de la Saint-Sylvestre, avec des lentilles, parce qu'en Italie, comme dans le sud de la France, la lentille est censée apporter richesse et prospérité pour l'année qui vient. Donc si vous le mangez à 11h, c'est pas de bol, mais parce que l'année, elle est passée. Mais par contre... Si vous le mangez à minuit 2, vous êtes relativement tranquille pour toute l'année à venir. Donc, c'est un des plats à manger le soir de la Saint-Sylvestre. Bon, en France, on ne mange pas vraiment du saucisson cuit avec des lentilles. Cela dit, c'est très très bon, avec des lentilles, avec des pommes de terre, une salade de pommes de terre, ou avec, dans d'autres régions, ils mangent ça aussi avec des haricots, des salades de haricots. Donc ça, ça va ressembler en texture, on va dire peut-être un peu une saucisse de morteau, mais c'est beaucoup plus, un petit peu plus gélatineux, donc beaucoup plus suave en goût, beaucoup un peu plus moelleux. Et alors, soit vous l'avez cru, et alors là, ça cuit des heures, soit vous l'achetez sous vide, pré-cuit, et là, pour le coup, ça cuit une vingtaine de minutes. Ça ressemble un peu à un gros... le zampone, ça fait allez, 800 grammes, 1 kilo à peu près, et le côté kino, ça fait 400-500 grammes à peu près. Donc ça, c'est des AOC, ces trucs-là aussi. Encore deux AOC. On va changer de sujet, on va sortir de la charcuterie. Et on va passer au fromage. Le fromage le plus connu, on va dire... d'Italie, probablement. C'est le deuxième en matière de consommation et d'export. Le premier étant le Grana Padano, qui est un peu le cousin, on va dire. C'est le Parmigiano Reggiano. Là encore, ça remonte un peu. Alors, pas à l'ère romaine, c'est un peu plus tard. C'est arrivé plus tard. Mais enfin, c'est quand même au XIIIe siècle qu'on commence à parler du Parmigiano. Et ensuite... les techniques s'améliorent. Donc, les techniques sont améliorées par les moines, comme souvent en Italie, les bénédictins, les cisterciens. Commencent à exporter. Alors, le truc qui m'a fait rire, c'est exporte en Toscane. Ah bah, c'était pas la même région, c'était pas le même pays, c'était pas le même Orient. Enfin bon, c'est une exportation proche, mais enfin à l'époque, ça devait pas être facile quand même. Et ils exportent aussi vers les ports de la Méditerranée, ports italiens. Mais aussi pour étrangers. La Grèce, la France. Ça commence à se diffuser dès le XVIe siècle, donc c'est un des premiers produits d'export italien, de vrais produits d'export italien en quantité importante, c'est un des premiers produits. Et à cette époque-là, les formes de parmesan faisaient à peu près 16 kilos. Aujourd'hui, elles font le double, plus du double. Et à cette époque-là, en fait, c'était utilisé soit avec des pâtes, déjà, soit en dessert. Donc après, il y a toute une évolution de la production, puisque ça se, entre guillemets, ça s'industrialise, et notamment, à partir du XVIIIe siècle, il y a des fromageries qui se regroupent un peu, bon, genre coopératives, c'est-à-dire qui regroupent les productions de différents producteurs de lait pour produire et ne faire que produire du fromage. On passe d'une zone à un stade un peu plus industriel, c'est-à-dire que c'est pas juste... l'éleveur qui fait son fromage. Là, on arrive à commencer à faire des choses un peu plus industrielles. Au XIXe siècle, ceux qui promeuvent l'utilisation du parmesan et le fait que le parmesan devient un fromage mondialement connu, ce sont les Français. Puisque, à l'époque, les cuisiniers français étaient très renommés et ce qu'ils racontaient avait une valeur particulièrement importante, c'est eux qui recommandent, promeuvent l'usage du parmesan à travers le monde. Donc, assez tôt, au début du XXe, est créé le consortium du parmesan, du Parmigiano, qui prend son nom en 1938 et obtient une AOC, pareil, en 92, début des années 90, donc assez tôt. Alors, si vous voulez faire un parmesan, maintenant vous savez faire un jambon de Parme, il vous faut à peu près 600 litres de lait, puisqu'il faut en gros 16 litres pour faire un kilo de fromage. Et une forme fait à peu près 38-40 kg. Donc si vous avez 600 litres de lait, donc vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez entamer la production d'un parmesan. Au total, alors ça c'est pareil, je trouve les chiffres de ces produits-là assez impressionnants, parce que c'est à la fois des produits qui sont très artisanaux et très authentiques, mais à la fois en termes de quantité, c'est quand même assez impressionnant. Il faut quand même 250 000 vaches pour faire le lait du Parmigiano. Et il y a à peu près 3 millions de formes par an. Ça représente 15% de la production italienne de lait. Donc c'est quand même assez, une part assez importante, sachant que le Grana est un peu plus, fait un peu plus. C'est 13% des exportations italiennes tout confondu. Donc ça représente quand même... bon, après, est-ce que mes sources sont pas bonnes, mais bon, ça fait quand même beaucoup. Et c'est surtout devenu, enfin nous on s'en rend compte tous les jours, un objet de spéculation. Quand le prix, comme ça se garde très longtemps et que ça s'affine très bien, il y a une spéculation sur les meules, les formes de Parmigiano, qui se fait. C'est-à-dire que quand le prix du lait augmente, il n'y a plus de forme sur le marché. En attendant, du coup, ça fait monter les cours, les formes arrivent. Le prix du fromage depuis, je sais pas, un an ou un an et demi chez nos fournisseurs a augmenté, mais celui du parmesan, tous les 15 jours, on a une augmentation. Parce qu'ils ne trouvent pas. Parce qu'il n'y en a plus sur le marché. Donc, si vous voulez pas acheter de l'or, achetez des meules de parmesan. Si vous voulez faire des placements, la meule de parmesan peut être pas mal aussi. Bon. C'est un peu plus encombrant que le lingot, moins cher. Mais ça peut toujours être intéressant. Donc le Parmigiano, c'est un fromage qui est au lait cru, qui a pâte pressée cuite. Là encore, l'AOC délimite un territoire d'élevage, un territoire de travail, un territoire d'affinage. La nourriture des vaches, il faut uniquement de l'alimentation locale et pas fermentée, pardon, il manque un R. Parce qu'en fait, l'alimentation fermentée, les ensilages, les choses comme ça, crée dans l'estomac des vaches une certaine acidité qui rejaillit sur le lait. Et en fait, le fait d'avoir une alimentation, un lait plus acide, fait qu'il ne caille pas de la même façon. Et du coup, la conservation ne sera pas aussi bonne. Et comme le Parmigiano doit vieillir au moins 12 mois, mais là encore, s'il n'a pas vieilli 24 mois, c'est pas terrible. Il faut quand même avoir quelque chose qui vieillisse très longtemps. Si vous avez du lait trop acide, votre fromage vieillit mal, et du coup, vous ne faites pas du bon fromage. Alors, il y a une petite production de Parmigiano qui est faite avec les vaches rouges, qui sont des vaches traditionnelles, on va dire, de la région, qui est le plus réputé. Honnêtement, j'ai mangé les deux en parallèle, je cherche toujours la différence de goût. Mais bon, les spécialistes disent qu'il y en a une énorme, alors je ne sais pas. Soit c'est mon palais qui comprend rien, mais bon, ça m'a pas marqué. Enfin, il est très bon aussi, mais j'ai pas été subjuguée par la différence entre les deux. Après, voilà. Alors, pour ceux qui s'intéressent à tout ce qui est nutrition, le Parmigiano est un fromage qui est très intéressant. Parce qu'il a des protéines qui, du coup, sont particulièrement digestes, parce qu'elles sont affinées très longtemps. Le calcium est très bien assimilable, beaucoup plus que dans la plupart des autres fromages. Il est écrémé deux fois, puisqu'en fait, le parmesan, pour le faire, on met la traite du matin, on la travaille, on l'écrème, on met la traite du soir, et on écrème le total. Donc la traite du matin est écrémée deux fois, et la traite du soir qui a été rajoutée une fois. Donc du coup, au total, c'est écrémé une fois et demie, on va dire. donc, est plutôt moins gras. Et en termes nutritionnels, ça apporte des protéines qui se digèrent 4 fois plus vite que celles de la viande. Une quantité équivalente de fromage ou de viande, le problème c'est que souvent on mange fromage plus, enfin viande ou poisson plus fromage, mais si vous mangez du Parmigiano à la place de la viande ou du poisson, ça se digère 4 fois plus vite. Donc ça en fait un produit, enfin de régime, peut-être pas exagéré, mais qui est quand même particulièrement bon en termes de nutrition. Et qui est bon aussi, enfin, les gens qui ont du cholestérol, apparemment, ça poserait moins de problèmes de manger ce genre de protéines-là et ce genre de produits que des fromages plus grands. Bon, après, ça, c'est ce que raconte le consortium du parmesan, ils vont pas vous dire que c'est pas bon. Mais le fait que c'est quand même un produit qui est particulièrement digeste et qu'on sait que plus c'est affiné longtemps, c'est la même chose pour les jambons et le gras, plus vous avez du gras qui est affiné longtemps, plus vous avez un gras qui est digeste et qui, du coup, est meilleur pour l'organisme. Ah, les pâtes, vous allez me dire, ça aurait quand même été quelque chose qu'on parle de la gastronomie italienne d'une quelconque région sans parler des pâtes. Alors j'étais bien partie dans l'idée de me dire, cette fois-ci on ne va pas en parler. Parce que spontanément, quand je pense à cette région-là, je ne pense pas aux pâtes. Ou pas plus que ça, quoi. Enfin pas plus qu'ailleurs, on va dire. Et en fait, en cherchant un peu, il y a deux types de pâtes qui ne sont pas les moins connues, qui sont de la région. les premières étant les tagliatelles. Alors l'histoire raconte, que la taille de la tagliatelle, qui est de 8 mm, a été choisie parce que c'est un multiple de la taille de la tour de Bologne. C'est peut-être un multiple de la taille de plein d'autres trucs, hein. Mais la raison officielle de la taille de la tagliatelle, c'est ça. Et surtout le pompon du pompon.
Ah oui, ça c'est des cheveux.
C'est que la forme et la couleur, alors je vois pas de quelle couleur ils auraient pu être autrement, mais bon, voilà ce que l'histoire raconte.
Elle était blonde.
Voilà. En 1467, donc là encore ça remonte un peu, il y avait une belle femme de Ferrare qui s'appelle Lucrèce d'Este, qui circulait dans la région de Bologne, qui s'est mariée avec je ne sais plus qui à Bologne.
C'est-à-dire, c'est la. Comment dire, Lucrèce, Borgia, c'est Lucrèce Borgia, voilà. C'est la fille, entre guillemets, du pape.
La fille du pape. Et qui, alors elle s'est mariée.
Elle s'est mariée avec le. Comment dire, Alphonse d'Este, le frère d'Isabelle d'Este.
Et donc, lors du mariage, elle était très belle.
Ah, elle était très belle.
Et. Ils ont créé les tagliatelles en hommage. Elle avait les cheveux blonds, blonds, blonds. Donc les tagliatelles, c'est ses cheveux.
C'est pas étonnant. Hommage aux cheveux.
Bon, voilà, hein, ça vaut ce que ça vaut. Comme... Mais la prochaine fois que vous mangerez les tagliatelles, je pensais Lucrèce. Voilà, ça fait chic. Quoi. Plutôt que de manger des pâtes bêtes, voilà, vous serez fait un truc. Donc voilà, comme personne ne sait exactement si c'est vrai ou pas vrai, on va dire que ça, ça peut. Donc voilà.
Les Borgia à la télé, vous verrez comment les représenter.
Et bien quand vous la verrez, pensez à cette tagliatelle. Il n'est pas d'accord ? Il n'est pas d'accord avec cette théorie. Bon, bah,
c'est la Lucrèce qui se retourne.
Il y a Lucrèce qui. Il y a Lucrèce qui montre son désaccord.
C'est la sœur de César Borgia.
Oui, c'était la fille du pape et la belle sœur.
Non, la sœur de César Borgia, la terrible, qu'elle s'est entendue mal. La famille Borgia.
Oui, c'est. Donc voilà pour les tagliatelles. L'autre type de pâte qui viennent aussi de Bologne, c'est les tortellini, qui là sont plus des pâtes sèches, mais sont des pâtes fraîches aux œufs. Et contrairement aux pâtes sèches qui sont faites à la semoule de blé dur, les pâtes fraîches sont faites à la farine de blé tendre. Et les tortellini viennent aussi de Bologne. Donc il y a quand même deux grands types de pâtes renommées qui viennent de Bologne. Et la sauce à la bolognaise, qui est connue partout dans le monde, en gros, sauf en Italie, vient en fait du fait que ce sont les Italiens en exil qui, en hommage à Bologne et de la ville des pâtes et de ses souvenirs, ont appelé la sauce la plus commune de leurs pâtes, qui était le ragoût, à la bolognaise, mais enfin de l'étranger. Donc en fait, c'est une appellation qui vient des Italiens de l'étranger et pas des Italiens d'Italie. C'est pour ça qu'en général, en Italie, bon, maintenant, les Italiens, je présume qu'ils savent ce qu'est la bolognaise, mais l'appellation de la bolognaise, c'est plutôt à la ragoût. Qui revient à peu près au même, parce que bon, le ragoût, enfin, la recette de la sauce à la ragoût et de ce qu'on appelle la bolognaise, c'est quand même assez ressemblant. Hein. Il y a un petit peu de vin dans cette région, c'est pas forcément les vins les plus exceptionnels, par contre, c'est probablement dans les vins les plus. Enfin, dans des vins très connus, et notamment le Lambrusco. Donc c'est un vin qui est légèrement pétillant, frizzante, qui est en général rouge, mais qui peut aussi être rosé et plus rarement blanc, mais il y a aussi du Lambrusco blanc, qui est sucré ou un peu plus sec, donc en général c'est jamais très très sec quand même. Les Italiens, enfin surtout dans cette région, ont un peu tendance à boire ça avec tout. Moi, j'ai tendance à dire que ça se boit quand même pas avec tout, surtout le sucré. Parce que le rouge sucré pétillant, il faut quand même être motivé pour boire ça avec certaines choses. Cela dit, avec des plats de pâtes, de charcuterie, une pizza, ça peut être pas mal. Moi, j'ai plutôt tendance à le préférer à l'apéritif. Je trouve que c'est plus agréable à l'apéritif, mais bon, on en vend à des clients qui mangent ça avec des mets très élaborés. Donc bon, pourquoi pas. Il y a quelques autres vins dans la région, mais honnêtement, enfin, c'est pas forcément les vins les plus connus et les plus reconnus, même s'il y a des choses qui sont très bien. Mais l'Ambrusco, c'est vrai que ça fait partie, on va dire, du folklore un peu italien, au même titre que bon, le Chianti avec la jolie bouteille, le Lambrusco, c'est un côté qui est... Oui, mais voilà, la Mabilé qui est assez sucrée, assez doux. Ah, c'est bon... Le sec est quand même plus ressemble, enfin, est plus classique, ressemble plus à un vin tel qu'on les connaît en France. Mais le vrai, entre guillemets, Lambrusco, c'est la Mabilé. Ah. Le vinaigre balsamique traditionnel de Modène. C'est-à-dire que pour avoir un truc qui soit pas du caramel, c'est comme ça qu'il faut qu'il s'appelle. En fait... Ah, le prix n'est pas le même, mais la fabrication n'est pas la même non plus. Non, et... Donc là, maintenant, on va pouvoir fabriquer du vinaigre balsamique.
C'est vrai, ça, alors.
Si vous avez 12 ans devant vous, vous pouvez en faire. Donc là, on change encore, et ça explique aussi le prix, on change aussi de durée et d'espace-temps. Et 12 ans, c'est le strict minimum. Certains balsamiques sont affinés 25, 40, 50 ans. Donc en gros, vous prévoyez aujourd'hui pour vos petits-enfants, en espérant qu'ils prennent la relève, quoi, parce que sinon, c'est un peu pas de bol. Donc c'est quand même... On change complètement. Donc, le vinaigre balsamique, au départ, c'était un médicament. C'était utilisé comme un médicament. Maintenant, c'est plutôt un nectar d'exception. Et aujourd'hui, malgré les prix élevés, c'est quelque chose qui est absolument pas rentable pour ceux qui en fabriquent. Il y a une soixantaine de producteurs maximum qui en font. Donc c'est très très limité. Alors, on va tordre le cou tout de suite au vinaigre balsamique qu'en est pas. Il y a une IGP qui s'appelle vinaigre balsamique de Modène, pas traditionnel, qui là, pour le coup, n'a pas forcément de cahier des charges en matière de recettes, mais un cahier des charges en matière de zone de production, parce que vous trouvez aussi beaucoup de vinaigre balsamique fabriqué à Hong Kong, en Chine, à Peluche, et machin, enfin bon, partout. Donc l'IGP a quand même comme avantage d'être produit dans la région de Modène. Après, il peut être pourri et produit dans la région de Modène, mais il est produit dans la région de Modène. Donc le plus classique, on va dire, vous prenez du vinaigre classique, vous mettez un peu de moût de raisin, ça vous l'épaissit, un peu de caramel, voire beaucoup de caramel, parce que plus votre vinaigre est acide, plus vous mettez du caramel, et ça vous fait un pied dans l'eau chaude, un pied dans l'eau froide, et le corps est à la bonne température, en moyenne. C'est le principe du vinaigre balsamique dans 99% des cas. C'est ce que vous trouvez pratiquement partout dans tous les supermarchés. Après, vous en avez... Alors, on vous explique qu'il est vieilli 12 ans, mais enfin, quand vous mettez un truc avec du caramel et que vous vieillissez 12 ans, c'est toujours... vous êtes toujours sur un truc qui est à la fois très acide et très sucré. Puisque le vinaigre, il est toujours acide, et le sucre, il est toujours sucré, et bon, avant que les deux se rejoignent, même en attendant, ça évolue assez peu. Après, il a l'avantage de ne pas coûter très cher, et bon, dans un certain nombre de cas, ça peut faire l'affaire. Après, vous avez l'étape suivante, qui est un vinaigre balsamique sans caramel, qui n'a pas forcément la rosée. Donc là, en l'occurrence, vous avez un vinaigre balsamique qui est fait à partir de raisins, qui est cuit, c'est-à-dire qu'on part sur la même base, on va dire, que le vrai, auquel, en général, on triche un petit peu en rajoutant du moût de raisin pour l'épaissir un peu, ce qui a comme conséquence d'aller un peu plus vite. Mais il faut quand même le vieillir 7, 8, 10 ans. Donc là, vous avez quelque chose qui, en général, est à la fois moins acide et moins sucré que celui avec le caramel, mais n'a pas quand même ni la consistance, ni la texture, ni la richesse du vrai balsamique. Mais là, vous commencez à être dans du vrai. Mais il faut qu'il soit marqué sans caramel, ou que dans la composition, vous n'ayez ni caramel, ni truc mucheuse, parce qu'en général, tous les trucs en eux quelque chose, c'est une façon de planquer le caramel. Donc si vous avez juste vinaigre et jus de raisin, ou raisin, mou de raisin, ou vinaigre et mou de raisin, vous n'avez pas de caramel. Il y en a quelques-uns, je vous avouerai que pour en trouver, nous, à vendre, on a fait un certain nombre de fournisseurs, y compris des gens qui nous garantissaient qu'il n'y en avait pas, et quand on regardait la composition, bizarrement, il y avait 3 ou 4 trucs qui s'appelaient E. Donc il y en avait. Donc il y en a assez peu, mais ça se trouve. Après, là, on arrive au vrai. Le vrai, c'est au départ du raisin blanc, qui vient de vignes sélectionnées. Contrairement au vinaigre classique, où en général on prend les rebuts pour faire du vinaigre, là on prend les meilleures grappes pour faire du vinaigre. Ça change. Non, mais c'est pour ça, ça n'a plus rien à voir, quoi. Vous changez tout. C'est un petit périmètre, c'est une vendange tardive, pour que justement les grains soient le plus possible gorgés de sucre. Alors que d'habitude on prend les grains un peu pourris, donc, enfin pas pourris, mais les plus acides, les petits machins qu'on met au rebut pour avoir un truc le plus acide. Là, on choisit les grains le plus tard possible pour qu'ils soient le plus sucrés. Donc déjà, ça part pas du tout pareil. Ensuite, on fait une petite pression, c'est-à-dire qu'on les écrabouille pas complètement parce qu'on ne veut pas récupérer tout, mais on prend juste le point de départ, on va dire. On les cuit, on laisse réduire pendant 12 heures et on met dans des tonneaux. Rempli aux trois quarts, à l'air, ouvert. Et pendant 12 ans, tous les ans, au moment de la vendange, quand vous rapatriez la récolte suivante, vous changez de tonneau pour un tonneau un peu plus petit et d'une essence de bois différente. Donc c'est un boulot monstrueux. Et c'est pour ça, enfin, à l'arrivée, quand vous voyez qu'une petite fiole comme ça, ça coûte 80 ou 100 euros, vous vous dites que ça fait 20 ans ou 25 ans que le Gugus y est, qu'au départ, il faut... je crois qu'il faut 600 litres de vinaigre pour faire 1 litre de balsamique ou quelque chose comme ça. Donc du coup, ça se réduit de façon...
Ils ne peuvent pas s'en sortir, alors, les fabricants.
Ah non, ils ne peuvent pas. Ceux qui font ça, en général, ont ça parce que c'est l'arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père qui avait fait ça. Ils gardent ça comme une tradition. Et ils font ça parce que c'est l'honneur de la famille d'en avoir quelques bouteilles et de faire ça. Mais ça leur rapporte... S'ils arrivent à rentrer dans leurs frais, ils ont du bol. Enfin, c'est vraiment le truc qu'ils font. Et puis en plus... Bon, personne n'en a des chais énormes, enfin, c'est des petites productions, donc ils vont en vendre quoi, quelques centaines de bouteilles ou quelques milliers de bouteilles pour les plus gros, vous n'allez pas loin avec ça.
Comment ils vont le consommer?
Alors ça, pour le coup, ça se consomme, pas dans la, enfin, on n'en met pas dans la salade, enfin, on peut en mettre, mais bon, c'est pas le but. Ça se consomme avec de la viande, avec du foie de veau, pour déglacer un foie gras. Sur une salade, on peut en mettre quelques gouttes sur des coquilles Saint-Jacques, sur quelque chose comme ça. Avec un morceau de parmesan affiné, vous mettez une goutte de ça dessus, c'est fabuleux. Et alors, quand il est très affiné, le top du top du top, vous buvez un petit dé à coude de ça en trou normand. Enfin, en trou modénais. Et ça se boit comme un... Enfin, c'est une liqueur, quoi. Sur les fraises, ça c'est super. Donc ça, c'est un usage... Enfin, c'est plus la même chose, c'est-à-dire que c'est plus du vinaigre. C'est un condiment d'exception qu'on met dans des préparations, qu'on met en cuisine. Et de fait, même si une petite bouteille, ça coûte 60, 70 ou 80 ou 100 euros, ça dure, enfin, quelques gouttes sont très parfumées et vous parfument votre plat. Donc c'est vrai que c'est pas le truc, c'est pas du tout quotidien. Enfin, c'est quelque chose d'assez exceptionnel.
C'est alcoolisé?
C'est... Non, c'est pas... Enfin, il doit y en avoir un petit peu dedans, mais... Non, parce que moi, il y a le degré d'acidité, mais par contre, j'ai jamais remarqué le degré d'alcool. Et quand on... Non, ça fait pas alcooliser. Mais il doit bien y avoir un peu d'alcool quand même. Je vous avoue que je ne me suis jamais posé la question. Oui, non, il y en a un peu, c'est pour ça. Ça doit bien être alcoolisé un peu, mais j'ai jamais... Bah, vous me posez une colle. Vous me posez une colle?
Bah oui, moi je ne sais pas, j'adore le...
Dessus, il est marqué, le degré d'acidité est indiqué en général. Et alors après, vous avez...
20 aigres, c'est pas sûr.
Oui, oui, non, mais... Oui, oui, non, c'est du vin. Oui, mais...
Il n'y a pas d'alcool, l'alcool s'est transformé en acide acétique.
Oui, non, c'est ça, l'alcool, normalement, est transformé
en acide acétique.
Donc oui, normalement, il n'y en a pas,
parce que...
Non,
et ça s'appelle la chaîne en italien.
C'est une fermentation différente de la fermentation alcoolique. C'est la fermentation acétique qui est aérobie. Si il faut de l'air, c'est la raison pour
laquelle c'est ouvert. Donc non, il n'y a pas d'alcool.
Ça se transforme en acide acétique.
Donc du coup, voilà, la réponse est non, mais effectivement, c'est une colle.
Ce qu'on appelle le vinaigre d'alcool, vinaigre ordinaire, le vinaigre d'alcool, c'est de l'alcool, effectivement, qui est pris, de l'alcool de betterave, bien souvent pour le vinaigre blanc, et qui est mis en présence des bactéries qui permettent la fermentation acétique. Alors, au lieu d'utiliser le sucre du jus de raisin, elles utilisent l'alcool
d'accord.
Pour donner de l'acide acétique. Et de toute façon, le résultat, c'est
le résultat
acide.
Même, d'accord.
Donc, il
n'y
a pas d'alcool.
Alors, le vinaigre balsamique, celui de Modène, le traditionnel, vous le reconnaissez à ça. C'est-à-dire qu'il a une forme, une bouteille d'une forme très particulière. C'est-à-dire qu'il a une bouteille ronde avec un petit socle plat carré. Un petit carré avec un rond. Il doit avoir l'AOC, le petit sigle que vous voyez là-haut, rond, jaune et bleu, un numéro qui est le numéro de flacon donné par le consortium. Alors, parce qu'en plus, pour tout arranger, quand on disait qu'il ne gagne pas beaucoup d'argent, chaque fois que vous demandez une AOC, il faut payer pour que votre produit soit certifié en AOC. Donc là, ben, ça marche pour tous les produits. Donc là, en l'occurrence, il faut aussi payer le consortium pour qu'il vous dise s'il rentre ou s'il ne rentre pas en degré d'acidité, degré de ceci, degré de ça, viscosité, enfin pas viscosité, mais à quel point il est sirupeux, pas sirupeux, texture, enfin il y a un nombre de choses assez impressionnant. Et quand il a la mention extra vecchio, c'est qu'il a été affiné au moins 25 ans.
Et quelle est la taille de cette bouteille?
Ça fait 100 millilitres, donc ça fait une bouteille qui a à peu près... à peu près cette taille-là.
Et de parfum, et ça se vend, donc...
Ça se vend, nous, le 25 ans, on doit le vendre 119 ou 120 euros, enfin, à peu près. Et le 12 ans, il doit être à autour de 70, quelque chose comme ça. Donc c'est pas la même chose, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut juste se dire que malheureusement, et c'est là où, bon, tout à l'heure je disais, c'est un peu dommage, enfin heureusement qu'ils se sont quand même bougés sur les AOC, c'est que c'est quand même très dommage d'appeler deux trucs qui ont aussi peu de points communs de la même façon, parce qu'à l'arrivée, ça s'utilise pas pareil, ça n'est pas le même produit, mais pour tous les jours, vous pouvez, en cherchant un peu, trouver des vinaigres balsamiques qui n'ont pas de caramel, qui ont une gamme de prix qui est intermédiaire, on va dire. Chez nous, le vinaigre balsamique avec caramel, il coûte 6 euros les 500 millilitres. Celui, on n'est pas dans la même gamme, hein. Celui qui est sans caramel en 250 millilitres, il doit coûter, on en a deux, un qui doit coûter 19 et l'autre 25. Et puis, les prix des... on a un AOC déclassé, donc qui est plutôt pas mal en rapport qualité-prix qui est bien, qui coûte une quarantaine d'euros, et qui pour le coup est plutôt pas mal parce que c'est... soit des AOC qui n'avaient pas tout à fait le degré d'acidité requis, ceci, cela, enfin bon, ça joue dans les petites miettes, ou alors c'est justement comme ils payent à chaque fois qu'ils ont, qu'ils veulent une AOC, ils en passent un peu en circuit parallèle pour justement faire des rentrées d'argent. Et celui-là, il doit coûter une quarantaine d'euros en 250 ml, donc en rapport qualité-prix, et vous avez tous les prix, tous les genres, mais je suis d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure, il y en a un certain nombre que vous achetez assez cher et qui ont du caramel dedans. Enfin, oui, tous les trucs où on vous dit 10 ans d'affinage, quand il y a du truc mûche, il peut être affiné 25 ans, il en aura toujours. Hein. Le caramel ne disparaît pas. Alors, c'est, le problème, ce n'est pas le caramel, c'est le fait d'essayer de compenser l'acidité par du sucre. Enfin... Donc voilà. Si on passe rapidement autour de spécialités un peu moins connues, mais qui sont quand même intéressantes, il y a quand même un peu de champignons par là, comme beaucoup de régions un peu boisées, un peu montagneuses, notamment les cèpes de Borgo Taro qui ont une IGP, je crois, des truffes noires. Il y a quelques gâteaux. Alors bon, les gâteaux, c'est enfin, les pâtisseries dans la région, c'est pas le fort. Mais j'ai trouvé un gâteau qui a l'air très léger. Un gâteau avec du miel, des raisins secs, des pignons de pain et des épices. Ça, ça doit être bien pour le jour où il fait. Ah, ça doit être très bon. Ça me fait un peu penser aux pâtes fortes dans la région ancienne, ce genre de choses.
Tant qu'il y a des abeilles.
Oui, il y a un peu d'abeilles par là, un peu de sapin. Donc ça, ça doit être un truc léger pour les soirs d'hiver quand il fait bien froid. Je n'ai pas goûté non. Donc juste pour conclure, avant de grignoter quelque chose, bah, c'est quand même une région qui est à la fois riche culturellement et gastronomiquement. J'avoue que c'est une région que je connais peu, mais ça m'a donné envie d'aller y manger quelque chose et voir. Et c'est quand même une des régions, je trouve, qui a le plus de produits enfin, connus dans le monde entier. Enfin, quand on parle de produits italiens, oui, pour le béotien, il va dire pâte et pizza, mais pour des gastronomes un peu plus avertis, on va dire parmigiano, on va dire jambon de Parme, on va dire balsamique, on va dire culatello. Enfin, c'est quand même la région, je trouve, qui concentre énormément de ces produits riches. Voilà, donc si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Sinon, je vous ai amené, mais bon, vous allez vous servir avec les doigts, parce que j'ai oublié les piques, je suis désolée. Du saucisson de féline, de la mortadelle et du jambon de Parme. Voilà, alors, vous venez, soit vous venez vous servir, soit vous venez. Des questions, des commentaires.
Quelle est l'origine du nom?
Mortadelle, je ne sais pas du tout. Ça.
Je connais carrément mortadelle.
Oui, mais voilà, en français, ça fait mortadelle, mais à part que.
Une chanson.
À part le problème de cette pauvre Adèle, je ne sais pas.
Non, je sais pas. On va chercher.
Bah, j'ai pas de. Je chercherai. Je sais pas, vous avez quelqu'un une idée de l'origine de mortadelle? J'ai pas trouvé ça. J'ai pas trouvé d'anecdote non.
C'est très intéressant.
Ben, je vous en prie, avec plaisir. Oui.
On n'a pas parlé, mais c'est hors région peut-être. Le Grana Padano.
Le Grana, la Grana Padano, il a une. En fait, c'est une AOC qui est, pour le coup, qui est une région de fabrication qui est assez large, qui est plutôt un peu plus au nord. Qui est plutôt pleine du pont, mais plutôt Lombardie, Piémont. Mais il y a une partie de l'Émilie-Romagne qui rentre dans l'appellation. En fait, la différence entre le Grana Padano, c'est plus ou moins le même type de recette que le Parmigiano. La différence, c'est qu'il n'est pas salé de la même façon. Et l'autre différence, c'est qu'en fait, les deux traites, celle du matin et celle du soir, sont mises en une seule fois. Après, il est souvent moins affiné, mais il peut être aussi très affiné. Et quand il est très affiné, je vous défie de trouver les. Enfin bon, les spécialistes vont vous dire que ça n'a rien à voir. C'est quand même très ressemblant avec le parmigiano. Si vous voulez grignoter un petit quelque chose.